Amen, merci beaucoup de votre accueil. C'est vraiment un plaisir, une joie de partager ce moment spécial dans la vie de Benjamin, de sa famille, dans ce ministère qui s'ouvre devant lui. Je vais m'adresser spécialement à Benjamin, mais je crois que c'est pour tout le monde, évidemment. Et je dois quand même vous dire que je connais Benjamin aussi depuis longtemps. On s'est peut-être perdu de vue, mais nous habitions dans la même rue, enfants. Nous fréquentions la même église, qui était l'église évangélique de Cossonay. Et puis, j'étais le grand copain de son frère Malik, frère aîné, qui est là, on est 2 semaines d'écart, on est né en même temps, même année. Donc, on passait pas mal de temps ensemble. Et puis, donc, j'étais souvent dans la famille en chaud. Merci de m'avoir accueilli si souvent pour un repas, pour jouer au Playmobil. C'était déjà la mode à l'époque. C'est resté. Qu'est-ce qu'on faisait? Des sorties à la forêt, grillades, la piscine à Échallon. Je pense que ça laisse des traces, parce que ça grelottait un petit peu, hein, il faisait froid dans cette piscine. Enfin voilà, tout ça pour dire que de mes yeux d'enfant, j'ai vu Benjamin grandir. Et ça me touche vraiment, vraiment aujourd'hui de le découvrir, de découvrir le plan de Dieu pour sa vie. J'aurais pas pu prévoir qu'il allait être pasteur, comme je pensais pas non plus forcément devenir pasteur à ce moment-là. Qui le pouvait, sauf si ce n'est Dieu. Mais voilà, c'est vraiment une belle surprise et de voir l'appel de Dieu sur ta vie, et je m'en réjouis. Donc je retrouve d'un coup un ami d'enfance qui est devenu mari, papa de 3 enfants, et prêt à servir Jésus de tout son cœur, donc il a déjà beaucoup de chemin parcouru. Alors je suis moi-même aussi jeune dans le ministère, et donc c'est vrai que j'aimerais cet après-midi transmettre à Benjamin en toute simplicité quelques conseils tirés de la parole de Dieu, des conseils qui m'aident chaque jour et qui seront utiles pour chacun. Alors le premier, comme les suivants d'ailleurs, sont tirés de la bouche de Paul lorsqu'il s'adresse à son collaborateur Timothée, pour qui il a beaucoup d'affection. Donc vous connaissez certainement cette relation Paul-Timothée. Paul considère Timothée comme son fils spirituel et il a investi dans sa vie. Et leur relation m'a toujours inspiré. On a besoin de mentors, on a besoin de pères spirituels qui, comme Paul, encouragent, croient en nous, transmettent leur expérience, donnent des paroles qui nous aident à fonder notre ministère. Il me semble que tu en as eu plusieurs durant ces 2 années et c'est bénéfique. Alors à ce moment-là, Timothée, il est responsable de l'église d'Éphèse, alors que Paul est emprisonné à Rome. Et puis cette deuxième lettre à Timothée, elle est riche, parce que pleine de conseils, parce que Paul sait qu'il approche de sa mort. Et au chapitre 1, verset 6 et 7, Paul va encourager Timothée à persévérer et à considérer ce qu'il a reçu de la part du Seigneur à ses débuts. Alors il dira ceci: « C'est pourquoi je te rappelle ceci, garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. » En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc mon premier point, mon premier conseil tiré de la parole de Dieu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le contexte de Timothée n'était pas simple, et le nôtre aujourd'hui ne l'est pas non plus, et on a cru comprendre que tu as été bien averti, que ton contexte à toi, à Bienne, quand tu es arrivé, n'était pas simple. Mais tu as relevé le défi. Et tu vas devoir persévérer, Benjamin, et veiller à ne rien perdre de ce que Dieu a déposé sur ton cœur et de ce qu'il va encore déposer aujourd'hui. Veille sur ta flamme, ta passion pour Jésus, pour sa parole et pour son Église. Il est tellement vite fait de trop porter sur nos épaules, de perdre courage, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, ou encore de commencer à fonctionner au lieu de se laisser renouveler et transformer. L'esprit qu'a reçu Timothée est le même qui habite en toi, qui habite en chacun de nous. Et ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et au regard de ce texte, j'aimerais redire qu'on ne peut pas exercer un ministère sans être pleinement rempli de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui opère en nous et au travers de nous. C'est l'esprit qui inspire et renouvelle. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui porte un fruit. Lorsqu'on lui laisse l'espace dans nos vies. Paul aurait pu rappeler d'autres qualificatifs de l'Esprit Saint, mais il a choisi de rappeler à Timothée qu'il a reçu l'Esprit qui est force, amour et sagesse. et c'est ce dont nous avons le plus besoin dans le ministère. Ce n'est pas nous qui pouvons produire cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et il est parfois bon de se souvenir de qui est l'Esprit Saint. Qui est cet Esprit qui habite en nous? Qui est cet Esprit qui nous a appelés? Et face à certaines situations, on a besoin de sa force, de son autorité, pour prendre notre place de leader, pour affronter ce qui vient en face sans trembler. Et je crois voir que tu l'as fait, et je crois que Dieu va encore le faire aujourd'hui en t'établissant. On a besoin sans cesse de l'amour. On ne peut rien faire sans l'amour. Et Paul dit aussi en 1 Corinthiens 13, 1 à 3, je vais mettre la diapo suivante, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc je suis carrément impressionné que tu aies pu introduire en chinois et parler en anglais, hein, on se comprend. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne suffira pas. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, hein, on crie souvent à la foi, j'aimerais la foi pour transporter des montagnes. Oui, c'est bien, mais que si on n'a pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Force, amour. Et puis la sagesse, la pondération, la maîtrise de soi, le discernement, on pourrait dire, sont toutes des choses nécessaires, très nécessaires. Tu auras besoin de prendre de la hauteur, tu as déjà pu t'en apercevoir, c'est très important de pouvoir prendre de la hauteur, lorsque des personnes te confient un sujet délicat, une histoire de vie que tu n'aurais jamais pensé être possible. Et puis plus j'avance dans le ministère, moi-même, je vois des situations, je dis, ben, waouh, je pensais pas. On doit prendre de la hauteur. Tu auras besoin de sagesse pour apporter une parole de la part de Dieu dans des circonstances difficiles, parfois tragiques. Tu auras besoin de discernement et de pondération pour répondre à des personnes parfois malheureusement malveillantes. Tu auras besoin de savoir, te maîtriser face peut-être aux critiques, aux réactions inappropriées, face à tes propres faiblesses. Sa force, son amour et sa sagesse te qualifient pleinement pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, Benjamin. N'en doute jamais. Et au chapitre 2, verset 1, Paul dira aussi à Timothée, tu peux mettre la suivante, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Par définition, la grâce est une faveur imméritée, et nous ne pouvons devenir chrétiens sans accepter cette grâce de Dieu dans nos vies. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, nous le savons, ni son pardon, ni son salut, c'est pure grâce. Mais parfois, en tant que pasteur, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Il faudrait être parfait, répondre à toutes les attentes, deviner même les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Ça c'est souvent, je vous encourage les gens de l'Église, osez exprimer vos besoins à votre pasteur, mais n'attendez pas qu'il vienne vous visiter et dire « Ah mais il n'est pas venu me visiter quand même hein. ». Non, on ne peut pas tout deviner, le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses, mais... Au vu de la bibliothèque impressionnante que tu as, Benjamin, tu as certainement lu comme moi des livres sur le rôle du pasteur, les qualités attendues d'un leader responsable d'église. En plus du fruit de l'esprit qui doit être évident pour tous, on attend du leader qu'il soit sérieux, sobre, équilibré en tout, ami du bien, juste, maître de soi, conciliant, pacifique, sociable, hospitalier. Oui, même avec beaucoup d'enfants, il faut... Hein. Un bon mari qui dirige bien son foyer, un bon père. Mais aussi qu'il soit responsable, fiable, courageux, avec une autorité naturelle, persévérant, créatif, bien organisé, empathique, enthousiaste, capable de bien communiquer, capable de gérer et motiver une équipe. La liste est longue, hein ? Tiré du manuel Le Responsable d'Alfred Kuhn. Non, c'est sérieux, j'ai pris ça dans un manuel. C'est bien sûr que c'est des qualités bibliques, hein, on connaît les listes aussi qui sont là, bibliquement parlant, mais la liste est longue. Et il y a ces attentes-là. Il y a, sur nous, parfois, dans le ministère, on ressent ces attentes. En plus de ça, il y a des situations, des personnes qui souvent nous dépassent. Il y a le contexte de l'Église, qui est le sien, et puis qu'il faut aussi gérer. Et il y a notre propre contexte familial, avec pour toi des jeunes enfants. Au milieu de tout ça, le meilleur conseil est celui de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa grâce. Oui, il y a des attentes, mais je t'encourage à ne pas regarder à cela, à toujours regarder à sa grâce pour ta vie. Il t'a appelé à le servir d'une manière spécifique, il te connaît parfaitement, et lui n'a pas d'autre attente pour toi que tu comptes sur sa grâce jour après jour. Fortifie-toi dans sa grâce, la grâce qui est en Jésus-Christ. Le troisième conseil de Paul à Timothée que j'aimerais relever est celui du verset 15, donc chapitre 2, où il est dit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Autrement dit, présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé et approuvé. Jour après jour, nous passons par le creuset qui nous forme, transforme, qui nous purifie. On ne peut pas se présenter devant Dieu sans avoir accepté d'être d'abord éprouvé. Et c'est avec cette réalité de qui nous sommes qu'humblement nous venons devant lui, lui qui nous approuve et accepte. Nous pouvons venir avec assurance devant le trône de grâce. Mais je remarque que c'est étonnant là, parce qu'il est dit devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Mais je remarque que ce n'est pas évident quand on commence dans le ministère. Comment j'ai fait mes preuves? Tu l'as dit toi-même, il est jeune, nous sommes jeunes. Qu'est-ce que c'est un homme qui a fait ses preuves? Et parfois notre jeunesse, notre manque d'expérience pourrait nous faire rougir devant Dieu, face aux responsabilités qui sont les nôtres, mais aussi devant les hommes. On aurait presque tendance à s'excuser quelquefois. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu t'a appelé, tu as été mis à l'épreuve, tu as fait tes preuves et tu es approuvé. C'est lui qui te conduit dans cette position et tu n'as pas à en rougir. Il sait ce qu'il fait, même si parfois tu pourrais en douter. Il sait ce qu'il fait, il te qualifie et il va continuer son œuvre de transformation. Paul dira à Timothée, en Timothée 4:12, que personne ne méprise ta jeunesse. Et dans bien des cas, notre jeunesse apporte un tas de points positifs. Elle nous rend même encore plus dépendants de l'esprit, parce qu'on n'a pas grand-chose pour s'appuyer, on n'a pas d'acquis, on n'a pas de 150, 300 ou 3000 prédications derrière nous. Donc on doit rester dépendant. Et j'encourage mes anciens collègues à rester dépendants de l'esprit de la même manière. Amen. Mais vous l'êtes. Ben oui, je sais. Benjamin, tu ne dois pas rougir de qui tu es devant Dieu. Et cela te demande une bonne dose de confiance en toi. Cette confiance, elle se bâtit dans l'enfance, on le sait, mais elle s'acquiert que pleinement lorsqu'on découvre la puissance de l'amour et la bonté du Père pour nos vies. Lorsqu'on reçoit au plus profond de notre être cette parole du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis fier de toi. » Alors, on n'a plus à rougir. Nous sommes aimés. Et c'est sur cette base qu'on peut grandir sainement. Il l'a été dit, tu as perdu ton père prématurément. Mais cette assurance d'un papa céleste qui te dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » doit être ce socle sur lequel tu peux fonder ton ministère. Tu es approuvé de Dieu. Et je demande aujourd'hui ce sceau sur ta vie, cette bénédiction du Père. Et on priera pour ça tout à l'heure. Même si tu faisais une erreur, on n'est pas parfait, on l'a dit, tu pourras t'appuyer sur le fait que tu es toujours aimé du Père, autant qu'avant. Son amour ne varie jamais. Du coup, on apprend nos erreurs, on grandit, on demande pardon bien sûr, et on se relève. Tu n'auras pas à rougir si, assis sur cette réalité de son amour, tu t'alignes à sa volonté, en parole et en acte, et que tu prêches la vérité. On peut penser bien sûr à la prédication du dimanche, mais notre vie est un prêche pour chacun d'entre nous. Notre vie est une prédication. Si de tout ton cœur tu marches avec ce désir de vivre dans sa vérité, d'accomplir sa volonté, de prêcher la vérité, de marcher dans l'intégrité, tu n'auras pas à rougir. Dieu regarde au cœur, il voit notre désir de le suivre, notre choix de mise à part. La consécration c'est ça, c'est une mise à part. Lorsque Jésus devient notre priorité, lorsque nous nous attachons fidèlement à sa parole, malgré nos manquements, nous n'avons pas à rougir. Je sais que la centralité de Jésus est essentielle pour toi, alors vis-le dans tous les domaines de ta vie. Et je conclus. Récemment, dans un moment de prière personnelle, j'écoutais cette chanson d'Hillsong qui dit ceci. Tu peux mettre la diapo suivante, elle est déjà là, il est rapide, hein, il est jeune là. Waouh. Alors, nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous laissons tout pour te suivre. Oui, nos vies sont marquées pour ta gloire. Prends nos cœurs, Père. Prends tout, Seigneur, que nos vies puissent refléter ton amour. Et dans ce moment de prière, j'ai vraiment été encouragé à persévérer. Hein, c'est dans ces moments d'adoration, de prière, qu'on est voilà, dans l'intimité, dans le lieu secret de notre chambre, où on est le mieux ressourcé. Et le Saint-Esprit m'a inspiré ceci, que j'aimerais aussi te transmettre, la diapo suivante. Le ministère n'est pas un show, la bataille est derrière le rideau. Le ministère, ce n'est pas briller un temps, mais briller longtemps. Ou pour tout le temps. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qui cherche le show, qui cherche les lumières, qui cherche les spots. Mais je crois que c'est important dans le monde dans lequel on vit, où tout est tellement visuel. On a l'impression que tout passe par là. Que la personne du pasteur est centrale à l'église. Ben, j'aimerais te dire que les batailles, tu le sais déjà, les batailles c'est derrière le rideau. Les batailles elles se gagnent dans la prière. Et notre défi à nous qui sommes jeunes dans le ministère, c'est pas de briller pour un mandat dans une église, c'est de tenir dans la durée. Et de là on apprend beaucoup aussi, en comptant ceux qui nous ont précédés, nos collègues. Voilà, c'est avec ces mots que j'aimerais conclure. Ta mise à part, ta consécration portera du fruit. Et sa bénédiction t'accompagnera, toi et ta famille, cher Benjamin.